bibliothèque est en feu. Le changement social le plus spectaculaire et le plus lourd de conséquences de la seconde moitié de ce siècle, celui qui nous coupe à jamais du monde passé, c'est la mort de la paysannerie. Car, depuis le néolithique, la plupart des êtres humains avaient vécu de la terre et du bétail ou de la pêche. On aurait pu parler de Dalida, de Doryphore, de Drosera, mais on n'est pas une émission naturaliste. On aurait pu parler de Système D, mais la mode c'est le Système A. On aurait pu dérouiller de vieux chefs-d'œuvre coincés, on aurait pu trouver ça dur, abure. On se serait dépatouillé, mes camarades et moi, c'est comme distinguer, départir, ding-donguer, désinguer, ça nous défrise. Et comme aujourd'hui on est trois, on aurait l'air de Beatles dans un jumpy. Donc, comme il a dit Jean-Louis Aubert, c'est toi, c'est moi, c'est nous, quoi. Et ça nous arrange bien. Toujours dans l'idée de pas se distinguer, mes camarades et moi. Surtout que Patricia, elle est vachement frisée. Didier, tu nous arrêtes ? En tout cas, aujourd'hui, on va essayer de se rendre dingue. On va écouter le récit de Pierre Souchon, qui après avoir bouffé du buis en embrassant Jaurès, est encore vivant. Et les péripéties des Strasbourgeoises et Strasbourgeois embarqués dans une danse collective jusqu'à la mort parce que la mort les guettait et qu'en Alsace au XVIe siècle, comme aujourd'hui, quand la tête fait des pas de côté, c'est de vie qu'il s'agit. La soirée avait drôlement commencé au centre d'hébergement. Vous voulez un café, monsieur ? Derrière son guichet en bois peint, le mec de la Croix-Rouge me sourit. « Oui, s'il vous plaît. Tenez. » Je mets un sucre dans ma tasse. Un type couché en travers de ma route pose la main sur son jean. Il le remonte jusqu'au genou. Bordel de lame. Une grande lame enfoncée dans sa Santiago, le manche au niveau du mollet. « Restez où vous êtes, monsieur, ou on appelle la police. » Le bénévole me prévient. « Vous vous foutez de ma gueule ?» Je lui fonce dessus. L'autre là, il a une lame comme ça, quand je me pointe, il me la montre et vous voulez que je me calme ? Mais appelez-les ces putains de flics ! Je vais leur dire ce qui se passe ici, j'ai rien à me reprocher ! Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Plusieurs types se lèvent. Ils me montrent du doigt. L'autre, avec son couteau, s'approche de moi, il le sort de sa botte, boum ! La porte vole. Trois gitans sont sur moi. Sors ! Il hurle, dégage vite ! Je sors comme une furie pieds nus en t-shirt, un type sur mes talons. Je cours et il court aussi juste derrière. Et il y a la peur qui monte. Je me retourne, je le vois se rapprocher avec sa lame et je sais que je ne pourrai rien faire. Je sens que je vais claquer, là, alors d'un bond, dans une rue qui monte, je saute sur un mur. Il y a 50 mètres de vide mais surtout un grand arbre, un buis immense. J'arrache très vite une énorme branche pour faire un pieu. Il suit pas, l'autre au surin, quand il me voit avec ma branche 2 mètres au-dessus de lui. Il repart vers le foyer, en se retournant de temps en temps, tranquillement. Je me détends. Ça va mieux maintenant, mais c'est le bordel. J'ai compris. Je suis en enfer. Et les autres peuvent revenir. Faut que je me tire. Je descends de mon mur doucement. J'ai besoin de protection. Pas loin, je sais qu'il y a la place Jean Jaurès et sa statue. Là, je serai à l'abri. Je me mets en marche. Il y a personne dans les rues. C'est 4 heures du matin. Et puis d'un coup, Jaurès s'élève. Menton haut, regard vers l'horizon. Je monte les marches pour me mettre sur ses pieds et je l'étreins. Ils peuvent venir me chercher, le diable et ses copains, toutes les saloperies de l'enfer. Ils peuvent toujours essayer. Jaurès me protège. Et avec lui, les mineurs de Carmo. Et avec lui, le grand souffle ouvrier et combattant. Brel est dans le coin, pas très loin. Il fredonne. Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Je trouve ça très con. Parce qu'il est bien vivant. Qu'est-ce qu'il est froid, par contre. Il me réchauffe moyen. Tout en bronze. Comme je le tiens ferme, j'ai les mains gelées. Et bientôt les bras, et puis les pieds. C'est peut-être parce que j'ai faim. Alors je commence à manger la branche de buis que j'ai. Les feuilles, le petit bois. Et ça fait taire un peu mon estomac, même si j'ai la salive toute verte. Puis, il y a un peu d'activité sur la place. Des camions qui ramassent les poubelles. Ils font des drôles de cercles, ces camions de l'enfer, conduits par des noirs silencieux. Les commerces ouvrent, les lumières se rallument, s'éteignent. Elles font des ombres bizarres, alors qu'il n'y a pas de soleil. Autour de la statue. Un type est planqué derrière un pot de fleurs. Il me fait signe de ne pas bouger. Je ne bouge pas. Il est sympa, mais j'ai froid. Un camion rouge avec un gyrophare s'arrête à ma hauteur. Deux types en uniforme descendent. « Bonjour, monsieur. » J'attends de voir ce qu'ils vont me raconter. « Vous allez bien ?» Je mange mon buis, perché sur ma statue. « Oui, ça va. » « Vous êtes sûr ?»« Ah, les salauds. » « Oui, ça va très bien. » « Vous ne voulez pas venir avec nous? Vous devez avoir froid. »« Non, non, non. Je sais qui vous êtes. »« Ah bon? Qui on est? Vous êtes les envoyés du diable. Je viens pas avec vous. » « Ah non, monsieur, nous, on n'est pas les envoyés du diable. On est pompiers professionnels. »« Ouais, c'est ça. Apportez-moi le journal du jour. » Je savais qu'on était le 7 janvier à Montpellier. Donc, si les mecs m'apportaient le midi libre daté du 7 janvier, on n'était pas en enfer. « Ah non, monsieur, on peut pas vous apporter le journal du jour, c'est 6h du matin, il doit même pas être sorti et les kiosques ne sont pas ouverts. »« C'est bon, je le savais. »« Je viens pas. Avec Jaurès. On se bidonne. On les a bien eus. » Ils repartent.
Le fou. Je sais que le docteur ne sait pas que je sais. Il ne sait pas que je sais ce qui est bon pour moi. Mais le docteur croit savoir que je ne sais pas. Il croit savoir, lui, ce qui est bon pour moi. Alors qu'il n'en sait rien et continue de faire semblant de savoir. Le docteur ne sait même pas ce qui est bon pour lui. Il prétend savoir ce qui serait bon pour autrui. Je sais que ce que le docteur me prescrit n'est pas mon remède. C'est le sien, il voudrait que je sois comme lui a envie que je sois. Il s'en fout de savoir comment j'ai besoin d'être. Mais moi, je sais comment j'ai besoin d'être libre et sans ordonnance.
On vient d'entendre un poème qui est extrait de la revue Sans Remède, une revue de critiques et de témoignages sur la psychiatrie et sur la folie, et du coup qui est remplie de dingos et dingotes, un peu comme nous, et c'était Patricia qui nous a interprété ce poème. Juste avant, vous avez pu entendre le prologue, donc l'ouverture du premier roman de Pierre Souchon, qui est sorti à l'automne 2017, c'est un livre tout récent, et qui s'appelle Encore vivant. Encore vivant, c'est un récit autobiographique, romancé, dans sa construction, quand même, et qui raconte, notamment, mais pas que, un passage par la psychiatrie, de Pierre Souchon. Quand je dis pas que, c'est que à l'entendre, notamment quand on lit ses interviews, il nous parle de son passage en psychiatrie et de son statut d'aliéné, comme il dit, et comme il l'a brandi comme un étendard pendant quelque temps. Mais surtout, il nous parle de sa famille, de ses racines paysannes cévenoles, de son mariage avec une personne de la très haute bourgeoisie. Et dans notre émission sur les dingues, eh ben, c'était une manière d'introduire, par le roman de Pierre Souchon, cette question de savoir qu'est-ce qui nous fait fou. parce que ce qui nous fait fou, ça peut être l'existence préétablie de normes qui vont dire qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis, ça va être d'autres notions que vient introduire notamment Pierre Souchon dans son bouquin. C'est-à-dire de dire, il y a ces normes-là qui vont à un moment donné nous dire dingue par rapport à la société. Mais il y a aussi, et c'est comme ça qu'il l'introduit, et c'est pour ça que c'était important pour moi de vous faire entendre le prologue, parce que dans ce prologue, vous l'avez entendu, il est en train de manger du buis en faisant un câlin à la statue de Jean Jaurès. Il est dans la version un peu finale d'une des phases maniaques dans lesquelles il peut plonger. Et Pierre Souchon, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a des diagnostics cliniques. Lui, il a été diagnostiqué bipolaire, donc quelqu'un qui va alterner entre des phases dépressives très mélancoliques et des phases maniaques où physiquement et chimiquement quelque chose se passe dans le corps. Il ne dort plus, il mange de moins en moins, il est dans un sentiment d'hyperpuissance jusqu'à délirer et jusqu'à rentrer dans des phases même mystiques. Et donc Pierre Souchon, il nous raconte que il y a ces diagnostics cliniques qui sont en lien aussi avec pas que, donc avec des notions de normalité qui préexisteraient sur qu'est-ce qui nous fait fou ou non, mais qu'il y a aussi cette notion de vie et de mort. Et c'est en ça que, en tout cas concernant la psychiatrie et concernant aussi la dinguerie, son bouquin, il est subtil, parce que Souchon, il dit, moi, si à un moment donné, j'étais pas rentrée à l'hôpital de force, et il y a des passages qui sont très très durs dans Encore vivant, quand il est contraint, quand il est attaché, mis en camisole ou mis en camisole chimique, il y a des moments qui sont vraiment très rudes. Mais il nous dit aussi, tiens, à un moment donné, si j'étais pas passée par la psychiatrie à ce moment-là, en fait, ce que je risquais, c'était ma propre mort. Donc ça, c'est une première notion que je voulais introduire par rapport à notre émission sur les dingues. Et la deuxième notion qu'on abordera aussi en écoutant le deuxième ouvrage dont il va être question aujourd'hui, dans La bibliothèque est en feu. Cette deuxième notion, c'est des conditions matérielles et sociales qui, à un moment donné, nous poussent à la folie. Et c'est une deuxième entrée dans le livre de Pierre Souchon qui m'a beaucoup, beaucoup interpellée. Lui, il est, parce qu'il a un parcours qui est très particulier, lui, au sein de ses phases maniaques, enfin, au sein de ce qui a été diagnostiqué comme sa bipolarité, en fait, il traverse des formes de crise existentielle, une recherche de lui-même, ce qui n'est pas très original, on est quelques-uns, quelques-unes à passer par là. Mais ce qui est particulier, c'est que il fait, à travers ses phases maniaques, une relecture et en fait une espèce de mise en condition au sein de son histoire, et notamment de son histoire familiale, et notamment de comment son histoire familiale est liée à la paysannerie. Et c'est pour ça que j'ai tenu aussi à vous lire dans le générique de début la citation d'exergue du bouquin, qui est une citation de Hobsbaw, qui parle de la mort de la paysannerie comme l'un des changements les plus spectaculaires et les plus lourds de conséquences de la seconde moitié de ce siècle. Pierre Souchon, il dit « Je trouve ce changement si lourd de conséquences que j'en suis devenu fou. En phase maniaque, je voyais même des gens me demander de les venger avec des fourches à la main. » Oui, ce phénomène social sans précédent a été traumatique d'un point de vue biographique. Cette histoire m'est revenue dans la gueule car je me suis pris pour quelqu'un que je n'étais pas. On aura l'occasion de reparler des conditions sociales et matérielles qui à un moment donné nous rendent fous, notamment après avoir écouté le deuxième extrait de Encore vivant qu'on écoutera un petit peu plus tard dans l'émission. Mais voilà, je voulais commencer à introduire cette notion. Et on, dans le deuxième extrait, on écoutera comment Pierre Souchon est venu à la rencontre de la très grande bourgeoisie et comment, dans cette rencontre-là aussi, ça l'a rendu fou. C'est une manière pour lui, dans son livre, d'introduire non seulement les diagnostics et les diagnostics cliniques, mais de dire chacun à notre manière, dans la folie qu'on développe, dans cette manière qu'on a, qui nous est singulière, de devenir fou, on dit quelque chose de la société dans laquelle on vit ou dans laquelle on survit.
Je ne veux pas devenir fou, peut-être que je le suis déjà. Si c'est ça, alors ça va, mais je ne veux pas devenir fou. On espère ne pas tomber, on essaie de ne pas tomber.
Eh bien, les danseurs, n'entendez-vous donc plus l'appel de la messe ? Deviendriez-vous sourds aux dieux des catholiques ?
Alors que les cloches de la cathédrale sonnent à toute volée, un nuage noir d'ecclésiastiques, moines, clercs, curés, femmes sous des voiles qu'on prend en religion, déboulent à un bout de la rue du Jésus des enfants, en poussant leur croassement.
Cessez de danser !
D'oiseaux de mauvais augure.
Vous bafouez le Seigneur qui vous vouera à bien d'autres tourments.
Promet l'un qui s'approche.
Allez brûler dans l'enfer en châtiment de cette folie.
S'époumonne un autre, les touchant presque. Quant à celui-là, il crache son vitriol.
Les ténèbres totales vont bientôt vous plonger dans une nuit opaque. Il va vous arriver ce qui jamais ne fut.
Et se trouve pris dans l'élan d'un Rhinelander, ronde des cigognes, qui le bouscule et le roule tandis qu'il poursuit.
Jetez aux flammes votre sorcellerie!
Parmi cette foule de jambes agitées, jupons tournoyants, bras dessus, bras dessous, où sa virevolte saute en l'air, des prêtres pratiquent des exorcismes, en hurlant d'antiques incantations à l'oreille des déhanchés qu'ils aspergent d'eau bénite. Les sabots font clip-clap, chacun pour eux se conduit mal. À un pharan d'oleur épuisé s'adossant contre un mur, on dirait un ange fatigué reposant ses ailes. Un clerc promet.
Tu as dansé, ceci te sera défalqué de ta portion de paradis.
L'incriminé répond.
Ah, l'enfer est ici, l'autre me fait moins peur.
Et il retourne vers où tout se déforme et se perd, à l'autre extrémité de la voie qui déborde sur la place d'un marché au vin, par laquelle arrivent les médecins. Tout comme les membres du clergé, ils sont vêtus d'une robe noire mais coiffés d'un haut cône pointu. Fascinés par ce syndrome collectif, ils déambulent parmi des pieds nus ensanglantés et des visages extatiques, cherchent une raison médicale à cette danse fatale et insensée. Ils observent ceux qui arborent des grimaces, se livrent à des contorsions anguleuses en des poses grotesques, comme s'ils avaient les membres disloqués. Ils auscultent leurs ecchymoses, plaies ouvertes, déchirures, s'étonnent de la capacité d'endurance même chez les plus chétifs qui dansent à n'en plus pouvoir. Ils s'interrogent sur l'indicible étrangeté du cerveau humain, en soulevant des paupières sur des pupilles dilatées, palpant des cœurs, constatant des accès de suffocation. L'un semble sortir tout droit de son tombeau, tant son teint est livide. Un autre est écarlate, comme un valet de forge.
Celui-là, à terre, ne danse plus. Il est guéri ?
Non, il est mort. Les ecclésiastiques d'un côté de la rue et les médecins de l'autre, progressent avec difficulté dans cette énorme balle jusqu'à se croiser devant l'atelier des Trophéas, où Melchior n'est plus qu'une ombre attachée au pas de danse d'Enlin.
Enlin, Enlin, mais ça devient fou, Enlin!
Le mari, catastrophé par le comportement de sa blonde, soulevant toujours la poussière, dévisage une nouvelle fois sa face devenue effarée et ses yeux qui ne sont plus que deux trous noirs.
Écoute bien, chérie, écoute, je t'aime!
Celle-ci, en état de choc, ne semble plus l'entendre et reste muette en s'agitant alors qu'un médecin qui la scrute se demande à voix haute.
Danser. Esther en cri.
Un moine près du docteur rectifie.
Elle mène une sarabande à damner tous les saints, cette sorcière.
Melchior, face à Enlin, qu'il soutient par les aisselles, se tourne vers le tonsuré.
Malheur à tous les moines riches qui se bouchent les oreilles à l'appel de ma pauvre femme. Même s'ils frappent fort à la porte du ciel, Dieu ne les entendra pas.
Le discours du graveur est si incisif qu'il ferait de grands trous dans les bulles du pape. Le tonnelier, non loin, continue de remuer également devant son natal au déclin de la beauté. Aussi désemparée que le mari d'en face avec sa blonde, cette brune, trop maigre, refoulée, là où ça sautille, gambade et lance sa cavalière si haut qu'on voit ses jambes sans parler d'autre chose. Entend des médecins remarquer que le bas-ventre des danseurs enfle. Elle vérifie du regard entre les pattes de son époux et n'en revient pas.
Jérôme, mais tu...
Contrairement à la constellée de taches de rousseur qui s'entête à rester dans la rue, malgré les tentatives répétées de son mari, cherchant à la ramener en leur atelier, le tonnelier se laisse facilement entraîner par sa femme vers leur demeure. Pour lui, du moment qu'en cadence il peut gigoter des hanches, que ce soit ici ou ailleurs, il s'en fout. Attab Gebwiller fait passer son fabricant de tonneaux entre une tête de petite fille aux paupières closes laissée à l'abandon sur un robert de cheminée et un demi-muit, table qui n'a pas été débarrassée de restes anthropophages. C'est à ce moment-là qu'Anne-Lyne s'écroule d'épuisement, de détresse et de sommeil au creux des bas de Melchior. Tête la première, sa chute l'illumine contre les manches de celui qui a un besoin impérieux de la traîner jusqu'à chez eux, pour ensuite pleurer bien longtemps, front enfoui entre les seins de sa douce, qui dormira profondément malgré le grand tapage qui règne dans la rue, d'où s'approchent des bourgeois curieux. Venant de quartiers moins miséreux de Strasbourg, ils assistent au spectacle. Une dame relativement aisée se moque des danseurs gueux qui s'en fichent, peu soucieux qu'on les ignore ou qu'on les voit. En ses passementeries torsadées, dédaigneuses, elle parade, fière comme comtesse. L'argent rend arrogant. D'autres, en houppelant inconvenable, traversent les chaînes humaines et les rondes. Ils y tournent, se retournent, toisant tout le monde, tantôt de haut en bas, tantôt les yeux au ciel, les reluquant de biais, les inspectant de près, sous toutes les coutures. Parfois, ils les poussent pour passer devant eux. À d'autres moments, ils se pavanent, bouchant leur chemin. De l'éducation, ils en ont moins que des veaux, mais se révèlent sensibles à la contagion. La danse strasbourgeoise est comme une eau qui s'infiltre partout parmi les témoins. Ceux que les danseurs atteignent en perdent l'entendement et entrent tout aussitôt dans la ronde à leur propre étonnement. Face à la colère des curés continuant de gueuler.
Nauséabondes, rondes de péché.
Et des médecins estomaqués, d'autres qui ont eu tort de s'approcher de cette rue se voient pris de quelques mouvements irréguliers et de contorsions dans un bras, puis une jambe. Peu à peu, leur mal empire, et finalement, aucun membre n'obéit plus à la volonté de ces contaminés qui se laissent aller, rejoignant le grand courant pour en augmenter le terrible cœur. L'autre connasse arrogante qui tout à l'heure dédaignait tout le monde fait moins sa maline dorénavant, en tortillant ses miches comme une dingue et montrant son cul à tous. À l'écart, une sage petite fille près de ses parents, qui se gausse des danseurs, en un clin d'œil, avec l'agilité d'un chat, grimpe sur les épaules de son père et se met à s'y balancer, s'y pencher avec autant d'adresse que de rapidité, comme la plus habile des funambules, lui ébouriffant les cheveux. Elle fait des mines sacrément étranges, crie comme une désespérée. Alors que son père tente de s'en débarrasser, elle saute d'elle-même à terre pour aller se jeter dans la jupe de sa mère, en gémissant de honte et versant les larmes les plus amères sur son sort, tandis que le paternel ordonne.
« Vite, vite, on s'en va !»
Ils s'échappent effectivement, en toute hâte, pendant que de plus en plus de gesticuleurs butent contre les murs, saignent et reprennent la danse. Thank you.
l'avant-garde de notre époque, sécuritaire en tout, et pas seulement là où se portent nos luttes, mais aussi entre nous. On n'a pas le temps de reprendre leur dictionnaire pour voir si on y comprend quelque chose, pour pas que le délire du monde réel écrabouille tous les autres. Donnons des ailes à nos délires, ne pas se laisser enfermer dans les définitions, et pétons les plombs de tous côtés. Ce monde clos, à force d'être normé, ce monde malade, à force d'être médical, ce monde froid, à force d'être rationnel, ce monde là n'a que trop duré. Et taille aux camarades, lançons la horde des délirants à l'assaut de la citadelle de la raison, et brûlons définitivement le marché des étiquettes, y compris dans nos têtes.
C'était le deuxième poème extrait de la revue Sans Remède et toujours interprété par Patricia. Vous venez d'entendre le chapitre 5 de Entrer dans la danse, le tout nouveau, tout chaud roman, dernier roman de Jean Tellet, aux éditions Julliard. Vous connaissez peut-être Jean Tellet parce que dès qu'il se passe un truc un petit peu trash et un peu hors du commun dans l'histoire, il en fait un roman, en général très bien écrit. Vous avez pu entendre un petit bout de sa langue. Il romance des épisodes méconnu de l'histoire. Et là, en l'occurrence, c'était peut-être pas très clair quand on a démarré la lecture, mais nous sommes le 14 juillet 1518 à Strasbourg, et une femme, Dame Trofea, commence à danser de manière frénétique dans les rues de sa ville. Évidemment, elle habite le quartier le plus pauvre. Et à l'ouverture du roman de Jean Tellet, c'est des descriptions de scènes anthropophages, c'est la description de mères avec des nouveau-nés, des nourrissons qui vont les jeter depuis les ponts de Strasbourg dans le fleuve parce que de toute façon elles n'auront pas les moyens de les nourrir. C'est un contexte social d'une dureté absolue qui est décrit dans le roman de Jean Tellet et qui est un épisode donc de l'histoire, un fait historique documenté et avéré. L'extrait que vous avez entendu, c'est à partir du moment où cette épidémie de danse commence à être un petit peu inquiétante, notamment pour les pouvoirs de la ville, c'est-à-dire que des centaines de personnes commencent à danser de manière frénétique, dans la rue, sans jamais s'arrêter. Quand ils n'en peuvent plus, ils tombent par terre, là où ils sont, ils s'endorment, et dès qu'ils se réveillent, ils redémarrent leur danse. Ils ont les pieds ensanglantés, ils ont les membres endoloris, mais ils dansent, ils dansent, ils dansent, ils dansent. Ce qui est intéressant dans cet épisode de danse frénétique, c'est deux choses. C'est d'abord évidemment de regarder un petit peu cette notion que j'ai abordée tout à l'heure avec le livre de Pierre Souchon, Encore vivant, cette notion du contexte social et matériel qui est favorable à une forme de folie. Là, c'est d'autant plus vrai que cette danse devient très collective et très massive. À un moment donné, au plus fort de l'épidémie, c'est une quinzaine de personnes qui meurent par jour de la danse. Et donc ces conditions sociales et matérielles très rudes, quelles sont-elles à Strasbourg en 1518? Eh ben, c'est une succession de catastrophes naturelles, des inondations suivies de sécheresses qui font que la ville est assez affamée. Des épidémies de maladies, la syphilis qui arrive, qui est toute nouvelle, qui crée une forme d'angoisse parce que, rapportée par des mercenaires, elle commence à faire tomber pas mal de personnes dans l'ignorance la plus totale de la médecine. C'est l'épidémie de la suette anglaise qui, pareil, fait énormément de dégâts et qui est normalement assez rare et qui, là, fait des ravages dans la ville de Strasbourg. Et c'est l'armée ottomane qui arrive aux portes de la ville. Et donc voilà, des historiens, notamment John Waller,
avance, lui, cette hypothèse que cette épidémie de danse aurait été causée par une forme de psychose collective due à ses conditions matérielles très difficiles et aux angoisses d'ordre religieux que connaissent les Strasbourgeois. Puisque une des hypothèses qui était avancée, c'était de dire tous les malheurs qui nous arrivent sont dus à une forme d'impiété d'impiété collective au sein de la ville de Strasbourg. Donc il y a un espèce de climat de terreur chronique et puis des éléments sociaux bouleversés assez fondamentaux quand même, puisqu'on rapporte des épisodes d'anthropophagie, notamment de parents sur leurs propres enfants. Ce qui est intéressant par ailleurs, et donc là on en revient à la première notion évoquée tout à l'heure avec Pierre Souchon, de dire qu'est-ce qui nous fait fou, et donc l'édification à un moment donné de la norme, pourquoi c'était intéressant aussi d'évoquer Jean Tellet et cette épidémie de danse, c'est que on est au XVIe siècle à Strasbourg, on n'est pas au XXe siècle à Montpellier, et du coup c'était une manière de se rendre compte que ce qui nous fait fou, évidemment, bouge énormément en fonction de l'époque et en fonction de la culture et en fonction, et ça c'est extrêmement bien rendu dans le livre de Jean Tellet, en fonction de qui nous dirige et de qui fait autorité. Dans le bouquin de Pierre Souchon, ce qui fait autorité, c'est la médecine et c'est donc ce balancement entre le diagnostic posé par une médecine qui est toute puissante et qui va, elle, prendre en charge ce qui fait de nous, à un moment donné, fou pour les autres. À Strasbourg, en 1518, c'est beaucoup plus l'Église qui endosse ce rôle. Une médecine qui est quand même naissante et qui arrive et qui essaye de se ménager une place avec l'Église et les autorités religieuses. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant dans le livre de Jean Tellet, Entrée dans la danse, c'est qu'on a accès, en tout cas il rend vivant dans son roman, des dialogues entre les différentes autorités, donc entre les autorités de la ville et les autorités religieuses. Autorités de la ville qui sont là impliquées de manière directe parce que cette épidémie flambe dans la ville, que les gens meurent à tour de bras et qu'à un moment donné, il va falloir rétablir l'ordre. Et que les premières hypothèses et les premières solutions envisagées par l'Église ne fonctionnent pas. C'est assez drôle, ils sont passés par différentes hypothèses. Donc ensuite, c'est la médecine qui s'y est mise en se disant... Alors, ils ont écarté assez vite une hypothèse de mauvais alignement des astres pour finalement retomber sur une conception assez hippocratique de la médecine en disant que c'était dû à un excès de sang chaud et qu'il fallait que tous ces danseurs, danseuses expulsent, quoi, donc continuent de danser. Donc ils ont mis en place en fait des moyens de pouvoir danser. Ils ont ramené de la musique, des tambours, des troubadours, mis en place des scènes, mis à disposition des salles pour ces danseurs. Ça allait de mal en pis. Et après bien des débats, l'épidémie est imputée à Saint-Guy. On connaît cette expression de la danse de Saint-Guy. Saint-Guy qui aurait voulu châtier les habitants de Strasbourg en raison de leurs péchés et de leur attachement aux choses matérielles. Et puis, donc ils ont essayé de faire allégeance à Saint-Guy. Et puis, donc les autorités de la ville, en accord avec les autorités religieuses, imposent une période de contrition et de pénitence. Et puis, ça ne marche pas. Et finalement, ils sont installés, tous les danseurs sont trimballés de force dans des chariots et emmenés à une journée de route de Strasbourg dans une chapelle troglodyte dans laquelle chacun reçoit une petite croix et des chaussures rouges bénies au nom de Saint-Guy. Et on les laisse là. Et ça marche. L'épidémie prend fin la suite de cet épisode de danse folle dans une chapelle troglodyte avec des souliers rouges. Et bah ça, pour moi, c'est peut-être aussi une émanation d'une folie qui a de l'autorité, mais qui néanmoins n'est pas franchement très rationnelle pour mettre fin à une épidémie de danse. Voilà. En vous racontant un petit peu plus la trame du roman de Jean Tellet, c'était une manière de vous introduire les conditions sociales et matérielles très particulières qui ont prévalu à cette épidémie de danse. Je voulais juste vous rajouter, avant qu'on écoute la suite, que des épidémies collectives, de folie comme ça, un petit peu collective, de manie, il y en a eu bien d'autres ensuite, et qu'une des plus récentes, en tout cas, qui nous a été rapportée, c'est un épisode en Tanzanie, en 1962, où un fou rire incontrôlable s'est propagé dans 14 écoles de la région de Bukoba, entraînant leur fermeture pendant quand même 6 mois. Voilà, des folies collectives dont nous parle Jean Tellet. On écoute Las Histéricas, l'histoire des femmes qu'une certaine autorité psychanalytique a bien voulu rendre folle pendant un certain temps, tout ça parce qu'on aimait bien le clitoris.
Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo, las histéricas son lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G.
L'île de Ré, je me souviens. Là-bas, pour un instant, j'avais tout oublié. J'avais oublié que les copains de Garance avaient une fabuleuse farandole de maison de campagne, qu'ils y pèlerinaient en exotisme alors que j'avais grandi au milieu des champs. J'avais oublié que c'était pas des masures, c'était pas des bicoques, des granges et des cabanes. J'avais oublié que c'était des manoirs ou des châteaux avec des gardiens qui préparaient les draps et aéraient les pièces. J'avais oublié qu'avant de rejoindre le domaine que les parents hauts fonctionnaires de Louis avaient acquis à l'île de Ré, Mathilde, sa copine, m'avait prévenu. Tu vas voir les insulaires comme ils sont forts en caractère, ils ont de vraies gueules, c'est des durs, ils dégagent un truc. J'avais oublié que ça plaît, le paysan. Ça touche, le pêcheur. C'est véritable, le pauvre. À tel point que les parents de Louis possédaient une 4L pour les convoyer sur l'île. Mais alors pas une récente, hein. Pas une des dernières. C'était une sacrée putain de vieille 4L rafistolée, bousillée, qui devait avoir dans les 40 balais. Il en était vachement fier, Louis, de sa caisse. Il la surnommait affectueusement Fifi ou Titine, je sais plus. Et bien sûr, il avait fallu la pousser pour qu'elle démarre. Il les insultait bien, Brel. Il arrachait bien la gueule à ces gens-là. Ces prolos qui jouent les riches quand ils n'ont pas le sou. Et j'aurais tellement aimé qu'il poétise aussi ces riches qui jouent les prolos alors qu'ils ont plein de sous. J'essayais de dire qu'il fallait arrêter de se la jouer prolo à casquette dans sa 4L et que même, et que surtout, le prolo à casquette ne voudrait pas d'une pareille bagnole. sur l'île de Ré. J'avais oublié que les parents industriels de Mathilde lui avaient offert un appartement de 200 mètres carrés en plein dans le Paris huppé, qu'en déconcertant de simplicité, elle parvenait à trouver « sympa ». Je me foutais bien du gouffre ouvert entre Garance et moi, de cette fracture béante entre nos mondes. Je l'aimais. J'avais choisi ce voyage en l'épousant, celui de son château, le château de Paul Clos, son arrière-grand-père Paul Claudel, celui des immeubles haussmanniens de ses copains, toute leur hauteur sous plafond, leurs restaurants tours d'argent, leurs ambassades et leurs directoires. Je ne me lassais jamais de ce formidable pas de côté, Garance, ma liberté, que j'avais aimé par-dessus tout, un jour, entendre dire. Pour moi, les communistes, c'est le goulag. Chez n'importe qui, pareille assertion aurait déchaîné ma colère et mon mépris. Sur ses lèvres rouges, ces mots étaient une perle de plus dont je l'ornais. À l'île de Ré, dans cette maison prodigieuse, silencieuse, refaite à neuf avec du vieux, je communiais avec Mathilde, ses joues enflammées de vigueur comme elle m'expliquait que les entreprises devaient être diplomarques, un concept qu'elle venait de forger et qu'elle se proposait rapidement d'approfondir pour le CAC 40. Je fraternisais avec Louis, toujours superbement poli et très intéressé. Il avait une éducation, ce garçon, un savoir-vivre très harmonieux. Monsieur, c'était son milieu en quintessence, Louis. La bourgeoisie en transcendance, l'aristocratie en sautoir, mais il avait tout ça posé négligemment, là, sans faire attention. Il m'avait questionné dès notre arrivée dans le vaste jardin, avec un intérêt réel, spontané et fortement prononcé, à propos de la taille des arbres. J'avais répondu à ses tourments botaniques, en profondeur, ébloui de le voir ensuite saisir un sécateur et une scie jusqu'à la tombée de la nuit, inquiet du résultat, demandant mon approbation comme si son entrée dans le monde paysan en dépendait. Puis on a préparé le repas du soir tous ensemble. J'ai carafé les bouteilles de vin Saint-Joseph, Poulsard de l'Arbois. Les filles ont disposé les huîtres, les gambas et les crevettes sur de très jolies assiettes de famille. Et il dure ce moment. Il se prolonge autour du vin, du dessert maintenant. C'est un concert de musique classique parfait. Un instant pareil, et je le sais lorsque je le vis, et je ne veux rien en perdre. On le garde ensuite là, précieusement, qui palpite comme une fleur d'humanité. Louis se dirige vers un vieux coffre. Il en extrait précieusement une antique bouteille de cognac. Il sort des verres, et on s'installe dans les fauteuils près du feu. Mathilde a les yeux brillants. En ce moment, elle travaille pour une très grosse boîte de com, la numéro 1 mondiale. Elle a été embauchée tout de suite en sortant d'une grande école de commerce parisienne. Au-dessus de son bureau, elle a affiché un slogan de son invention. « Be you and change the world ». Elle m'explique. « Ça veut dire que si tu es toi-même, si tu exprimes vraiment ce que tu as en toi, ce que tu sens, tes projets, tes énergies, bah ça peut changer le monde. Je crois vraiment qu'il faut d'abord commencer par soi avant de penser à changer le reste. » Si on n'arrive pas à se changer soi-même, à être soi-même, on ne peut pas avoir des projets pour les autres. C'est puissant ce que tu dis, Mathilde. Te fous pas de moi ! Depuis que j'ai mis cette affiche au-dessus de mon bureau, il y a plein de collègues qui l'ont reprise dans notre open space. Ça m'impressionne très fortement, ce charabia simili-freudien que tous les collègues communicants de Mathilde se sont appropriés immédiatement. Be you, ma petite Mathilde, and change the world ! Je m'exclame. Tout le monde éclate de rire. L'orchestre continue de dérouler sa parfaite partition. Mathilde s'inquiète maintenant de savoir ce que je pense de la CFDT. C'est des connards, j'analyse, subtil. Non mais sans rire, t'en penses quoi ? Bah je te dis, c'est des connards. Mais arrête, c'est un syndicat, je croyais que les syndicats adoraient ça, qu'ils avaient raison de s'opposer à la droite, de se battre pour les salariés, non ? C'est vrai ? Mais il y a plusieurs syndicats, et ils sont pas tous sur les mêmes positions. C'est un peu comme les partis politiques, en fait. C'est difficile de dire « j'adore les partis politiques ». On a des préférences, quoi. Moi, je préfère la CGT, par exemple. La CGT ? Mais c'est des communistes ! Non, c'est fini, ça. Et de toute façon, ça ferait quoi s'ils étaient communistes ? Les communistes, bah, c'est quand même les extrêmes, quoi. Comme l'extrême droite, non ? Alors, ta CGT, bref... Et la CFDT, t'en penses quoi ? Non, mais pourquoi tu veux savoir ce que je pense de la CFDT ? C'est parce que... En fait, on vient d'être missionné par la Poste pour travailler sur son image. Parce que tu vois, en ce moment, l'image, elle est pas terrible avec le projet de privatisation dans les tuyaux. Les gens sont pas contents, c'est pas trop populaire dans la boîte, et puis il y a cette votation citoyenne contre la privatisation qui a fait un carton. Ils sont vraiment bizarres, les gens, de pas comprendre que la privatisation, c'est pas grave. Je sais pas ce que... Pourquoi ils voient pas qu'une fois privatisée, la boîte marchera mieux ? Parce qu'elle a de super atouts et elle aura pas des problèmes avec la concurrence. Alors, tu vois, pour comprendre les oppositions, bah, je passe mon temps sur les blogs de la CFDT pour voir ce qu'ils reprochent. Parce que des fois, ils ont raison sur des points. C'est quand même des insiders. Je me surprends à même pas péter les plombs, à pas bondir, à pas argumenter, à pas contredire. J'en crève pourtant de leurs conneries. Des fois, je prendrais bien un fusil. Et je reste béat devant Mathilde et son catéchisme. C'est que je découvre ici, je change d'air, je voyage. Et je bois quand même pas mal de cognac, ce qui explique aussi mon enchantement grandissant. Ah ouais, je dis à Mathilde. Tu bosses sur l'image de la Poste. Et tu fais quoi d'autre ? Bah, on a une deuxième mission, c'est un peu la même chose. Faut qu'on améliore l'image d'une boîte. C'est un très gros marché qu'on a emporté. C'est quelle boîte ? ArcelorMittal. Là, c'est très violent le coup sur la gueule que je prends. J'ai des images qui défilent instantanément. Je revois tout le film. Lakshmi Mittal, cet homme d'affaires indien qui rachète Gandrange, symbole de la sidérurgie lorraine à Usinor, pour 1 franc symbolique en 99. Mathilde me sourit. Bah quoi ? Je pense à lui, 4e fortune mondiale, ses 45 milliards de dollars d'économie. Il y a quelques mois, il a invoqué la concurrence des pays à bas coût, la hausse du prix des matières premières, plus rentable, l'usine, il fallait la fermer. Je regarde Mathilde interdit. Mittal vient de virer 600 mecs, 600 familles foutues en l'air. J'ai eu des sidérurgistes au téléphone qui m'ont raconté leur vie détruite, les études qu'ils paieraient pas à leurs gamins. Mathilde me demande ce que j'ai. J'ai rien, Mathilde. J'imagine, je réfléchis. Dans cette maison mignonne, autour de ce feu de cheminée, de ces verres de cognac, de ces cigarettes partagées, de ces huîtres de la baie, je vois débarquer d'un seul coup toute la violence. Mais alors la grande, l'ultime. Les mecs qui crèvent à petit feu, la picole, les dépressions, les bastons, les suicides. Le scénario déjà écrit de la grande catastrophe. Et tu es belle, Mathilde, tellement gentille, agréable, humaine et serviable. Et tu bosses pour Mittal, pour améliorer son image. Un peu chahuté ces derniers temps, tu m'expliques. Tu participes à l'immense saloperie. Je dis plus rien, Garance me perd pas des yeux, elle a peur que j'explose. La voilà donc, votre violence, tranquille, discrète, courtoise, polie, à distance. Voilà comment ils les fabriquent, leur boucherie, comment ils les couvrent, avec culture et gentillesse. Il faudrait imaginer ça, les vies qui se consument dans cette cheminée, les cadavres planqués dans les placards, sous vos mots doux, sous vos sourires si sympathiques. C'est une tisane qu'il nous faut, dit Mathilde.
Risperidone. Ce neuroleptique est prescrit pour la schizophrénie, mais également pour les problèmes de migraine, l'addiction au jeu, le bégaiement, la nausée, le trouble bipolaire. Il efface la tête, supprime ses mots comme ses plaisirs, efface les mots, il efface les souvenirs. Des méandres du cerveau. Il replie les casinos, éteint leur lumière, crie leur néon, avale leur argent, retire les bijoux clinquants du tour de cou des gens. À quoi bon jouer ? Peu importe, perdre ou gagner, à quoi bon jouer ? Garder son argent, garder tout en l'état, posé, immobile. Il a pris ma bouche, l'a ceinturée, 20 minutes après la prise. Il a passé au-dessus de mes paroles son filet transparent et gluant qui m'électrise. Policier du corps, il fait la patrouille, il tient mes positions et mes rêves au garde à vous. Les mots ne partent plus se cogner contre ses boucliers brillants. La place est vide, plus rien ne brûle, et le docteur blanc répartit les cendres grises de chaque côté de mon désert. propre, étincelant. J'attends la mer et ses eaux pleines et chargées. J'espère la mer, salée. Elle seule pourra me faire déborder et couler leurs camions rouges et couler leurs camions blancs en attendant, surveiller. Je retiens mes reflets. Dans les données après commercialisation, les symptômes extrapyramidaux réversibles ont été observés chez le nouveau-né après administration de risperidone au cours du dernier trimestre de la grossesse. Après sa mise sur le marché, l'enfant s'arrête aux pyramides pour son éternité. Ne pas ouvrir la plaquette thermoformée avant administration car il pourrait s'échapper. Ouvrir la plaquette thermoformée pour voir le comprimé afin de s'assurer qu'il existe vraiment. Et ne pas pousser le comprimé à travers le film de la plaquette thermoformée car il pourrait se casser, briser contre l'éternité de votre délire. Retirez le comprimé de la plaquette thermoformée avec des mains sèches, car l'eau pourrait le faire grandir. Placez le comprimé immédiatement sur la langue, ne jamais attendre. Le comprimé se désintègre en quelques secondes. Il se perd dans l'immensité de votre bouche. De l'eau peut être utilisée si nécessaire, mais lui laissez de l'air. Ce comprimé respire.
C'était Risperidone qui a été interprété par Patricia. Encore un poème extrait de la revue Sans Remède. Et on écoute tout de suite une chronique de Rika.
Je suis au Brésil, près du fleuve Oyapock. Je suis avec mon amie Dorothée. Et Dorothée me propose de l'accompagner dans un quartier de Saint-Georges où elle a réalisé des entretiens il y a quelques années, quand elle faisait son mémoire de recherche sur la prostitution de femmes brésiliennes en Guyane. Alors me voilà partie avec Dorothée, et on va un peu comme ça de maison en maison, on fait des rencontres, puis on s'arrête chez Rose. Rose est une bonne amie de Dorothée, elles sont super heureuses de se retrouver, ça papote en brésilien. Moi je comprends pas grand chose, mais j'arrive quand même à baragouiner 2-3 trucs. Et puis Dorothée me propose en fait que je reste là, parce qu'elle a besoin de faire encore quelques visites. Et c'est vrai que moi je suis un peu crevée, donc j'accepte volontiers la proposition de rester chez Rose pendant que Doro s'en va faire des rencontres. Je reste là, en fait plusieurs heures. Et au bout d'un moment, Rose et sa famille passent à table et ils me proposent de manger avec eux. Et moi je me sens pas bien en fait, j'ai un peu la nausée, donc à un moment je file aux toilettes et là je me mets à vomir. Bon, je reviens à la table et j'ose pas dire que je me sens mal, mais je crois que tout le monde s'en rend compte parce que Rose vient discrètement près de moi et elle me propose de m'accompagner dans une chambre pour que je me repose. Elle me prépare un lit et une grande tisane, et là je m'effondre. Le lendemain matin, Dorothée vient me rechercher et on part en pirogue, on traverse l'Oyapock et on arrive en Guyane. Je me souviens pas du tout de notre trajet jusqu'à Cayenne. Par contre, je me souviens très bien de l'arrivée dans Cayenne. Et je suis toujours dans cet état vaseux, je sers à rien. Donc Dorothée me propose gentiment de me déposer dans le centre-ville, dans un petit boui-boui, et qu'elle me dit « Écoute, tu peux m'attendre ici, et moi je vais essayer de retrouver des copains que j'avais à Cayenne pour qu'on essaye de trouver un logement pour la nuit. » Donc Doro me dépose comme ça, comme un paquet dans ce boui-boui, et je reste là, accoudée sur une table, en tête à tête avec mon soda. Et le temps s'étire. La serveuse et le patron me jettent des regards intrigués de temps en temps. Et c'est un peu comme si on m'avait mis de la ouate dans les oreilles. Je comprends pas ce qui se passe autour de moi. Ça s'embrume. Je divague. J'ai attrapé la dengue.
Merci, Rika. Pierre Souchon, il nous dit quand on est malade au corps, aux bras, aux mains, quand on a un cancer, quand on attrape un truc, on se soigne. Et quand on attrape un truc à la tête, ça fait polémique de se soigner. Dans son livre, il règle pas... En tout cas, il n'a pas une position tranchée sur la psychiatrie, mais il y a les deux facettes de la médaille. Il y a les épisodes très rudes, il y a le ridicule des diagnostics réducteurs des médecins posés sur la singularité de la folie des malades. Et voilà, parler de la dengue, c'était aussi parler du fait que... dans nos corps ou dans nos têtes, on peut attraper parfois des trucs et que c'est un accès vers les réalités qu'on traverse. Je voulais vous lire pour terminer un tout petit extrait d'un interview de Pierre Souchon dans CQFD. Vous pouvez retrouver cette interview sur internet. Il nous dit « Tout fait une peine immense dans cette histoire. » C'est vertigineux d'en être réduit à sa vérité. Je me présentais comme venant d'une famille de paysans ardéchois, ce qui n'est pas faux en soi, mais en réalité mes parents avaient une baraque avec piscine, étaient abonnés au Monde. Une fois qu'on a flingué les mythes et la poésie, qu'est-ce qu'il reste ? Cette expérience traumatisante de l'HP m'a mené sur le long chemin, toujours en cours, de la destruction de l'ego, dans tout ce qu'il peut comporter d'écrasant, de dominateur. J'aurais aimé en gagner autrement de l'humanité. Mais il est certain que je n'aurai plus jamais le même regard sur la vulnérabilité, sur ce qui est cassé, abîmé. Au terme de ce bouquin, je sais qui je suis, et surtout, j'arrête de raconter des histoires.
Elle s'ennuie, elle demeure, elle grossit. La tumeur, tumeur, tumeur. Elle passe de l'auvée en fœtus, assise en lotus. Elle traque les couteaux dans les flaques et les rots dans le tac. Elle cherche la mort dans l'âme, le corps en flamme. La mort partout, on voit tous tes trous sous ton voile d'opium. Ah, le joli fantôme qui s'élance dans la mort et qui crève à deux pas de mon cœur. Ah, le joli fantôme qui s'élance dans la mort et qui crève à deux pas de mon cœur. Ah, le joli fantôme qui s'élance dans la mort et qui crève à deux pas de mon cœur. Ah, le joli fantôme qui s'élance dans la mort et qui crève à deux pas de mon cœur. Ah, le joli fantôme qui s'élance dans la mort et qui crève à deux pas de mon cœur.
quelques évidences délaissées, pour quelques lieux communs désertés, quelques normes défaites, pour quelques raisons perdues. Vous voilà folle, hein ? Pour quelques évidences délaissées, pour quelques lieux communs désertés, quelques normes défaites, quelques raisons perdues, vous voilà folle. Vous voilà folle.
Vous étiez dans la bibliothèque est en feu numéro 4, D comme dingue. On s'est un peu rendu dingue les uns les autres aujourd'hui. La bibliothèque est en feu, c'est tous les premiers jeudis du mois et le mois prochain, on sera à la lettre E et on pourra tous ensemble embarquer. Vous pouvez réécouter l'émission le dimanche à 19h sur Radio Vassivière et attraper les émissions en podcast sur le site de Radio Vassivière. En régie aujourd'hui, nous avions Yann Burler, merci Yann. Nous avions Martin. Merci Martin. Et en studio, nous étions avec Patricia, avec Rika et avec Norma. Nous avons lu les extraits de Jean Tellet, Entrée dans la danse, ça vient de sortir en janvier 2018 aux éditions Julliard. Et nous avons écouté des extraits de Encore vivant de Pierre Souchon, édité aux très très bonnes éditions du Rouergue. À bientôt.
Elle ne peut plus de toi, elle te rend dingue. Ouais, quand elle a son poum poum chante. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend dingue dingue dingue. Quand elle whine dans son chante. Et y'a pas que chez toi chum.
Rien ne sert de lutter. Le temps ne pourra jamais l'effacer. À quoi bon résister? Car dans mon âme, son image est gravée.
L'amour c'est pas juste belle bonda. Batty Rider, ok, besoin plus pause pour garder forme là. Sa mamzelle, pas ni temps pour bao, pas ni temps pour woman sa ola. Si ou pas tenir l'esprit pour contrôle bombe ta la. Ou t'es tenu à savoir que ça te caille fini comme ça. Boy, pas femme t'es ta oublié histoire ou ta la. Elle te rend ding 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 quand elle a son poum poum.
Quoi,
chat, et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend ding. Boy, quand elle whine dans son chat, et y'a pas que chez toi qu'elle a causé.
La nuit se couche encore ici-bas. Les soirées n'ont plus le même éclat. Et si la lune brille, baby, elle ne brille plus pour moi. Les étoiles se font claires la nuit. Mais dans ma tête, je dois faire le vide. Le temps s'est arrêté ici depuis que tu n'es plus là.
Ding, 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 ding,